Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Cette semaine, nous avons choisi de partager avec vous de larges extraits d'une table ronde consacrée à la ville connectée. J'ai eu le plaisir de l'animer dans le cadre du cycle Culture numérique coordonné par la Bibliothèque publique d'information au centre Georges Pompidou au cœur de Paris. Après Francis Pisani et Émile Hoge qui sont toujours à nos côtés, la parole est à nos deux autres invités.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour Philippe Gerloff.
Bonjour.
Alors, vous êtes géographe, fondateur de Pop-Up Urbain, qui à l'origine est un blog, c'est ça? Et qui est maintenant un cabinet de tendances et de conseils en prospective urbaine.
C'est ça.
Vous avez pris des notes aussi?
Ouais, bah j'essayais de voir comment j'allais pouvoir raconter autre chose que mes prédécesseurs, parce que je partage à 99% leurs analyses. C'est vrai que à être confronté par ces questions, on en revient aux mêmes conclusions. Hein. Donc je vais éviter de répéter. Là où je peux essayer de trouver une petite valeur ajoutée, c'est que moi, ce qui m'intéresse, et c'était le postulat de départ du blog, c'est la question des imaginaires. Donc comment, en gros, ces problématiques urbaines et celles de la ville connectée vont être réappropriées par des créateurs, des artistes, des cinéastes, des stylistes, par exemple, et comment eux s'en servent pour poser les questionnements que nous, on a au quotidien, de manière détournée, artistique, créative, etc. Et cette question des imaginaires, elle me semble intéressante puisqu'elle est finalement une sorte de substrat. Il y a beaucoup de substrats quand on pose ces questions, mais elle est un des substrats qui permet de mieux comprendre la manière dont on réagit aux technologies, la manière dont on est interpellé ou au contraire très passif par rapport à ces technologies, ce qu'a dit Émile, la manière dont on va ou non s'en saisir et la manière dont on va ou non faire des choses avec. Et ça me semble intéressant d'essayer de décrypter de ce côté-là, qui est finalement assez peu défriché, donc...
Imaginaire et utopie et aussi peut-être dystopie, c'est comme ça qu'on appelle les contre-utopies ou les utopies qui font pas rêver, quoi.
Alors c'est ça, dystopie, je crois que j'ai souvent un problème sémantique, je crois que précisément c'est une utopie qui tourne mal. Donc c'est un peu différent de la contre-utopie qui, elle, est une utopie négative à vérifier dans des dictionnaires d'étymologie. Mais effectivement, ce qui ressort quand on brasse un peu large la question de la ville connectée dans les imaginaires, par exemple de la science-fiction, puisqu'on a cette chance quand même d'avoir un gros matériau autour de la théorisation et de la conceptualisation de la ville connectée dans la SF depuis maintenant un bon siècle, mais surtout avec le cyberpunk depuis les années 70, c'est un regard très noir sur la technologie. Ça, je pense que ça paraîtra évident à tout le monde. Je vous mets au défi de me trouver peut-être 5 films ou séries qui présentent la technologie de manière positive et en tout cas pas horriblement noire. Un des sujets qui m'intéresse en ce moment, par exemple, c'est la question des vêtements connectés, ou plus exactement, comment des stylistes vont essayer, à travers le vêtement, de répondre à des questionnements que Émile et Francis ont évoqués avant, par exemple ceux de la vie privée. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Un artiste qui propose des vêtements brouilleurs de surveillance, donc des vêtements qui permettent de ne pas être repéré dans l'espace public, donc avec les questions de privacy, d'intrusion de la vie privée qu'on a évoquées avant. Et un autre qui propose un vêtement qui, lui, brouille les connexions d'un individu, c'est-à-dire pour se forcer à déconnecter. Et là, ça fait écho à une autre question très fondamentale, qui est la capacité à déconnecter dans un monde de flux permanent. Je trouve que ces exemples, ils sont à la fois très triviaux, et en même temps, ils racontent une histoire, ils racontent assez bien notre rapport actuel à la technologie. Et c'est vrai que, par contre, c'est difficile de trouver des choses très positives dans... tout ce champ un peu vaste qui est celui des imaginaires.
Alors vous tenez un blog, hein, où vous écrivez beaucoup sur la ville, et vous écrivez d'ailleurs en des termes différents les mêmes choses que vos deux prédécesseurs. Il y a un texte sur la ville rebelle qui reprend exactement les idées qui ont été évoquées là par Émile. Vous proposez aussi sur ce blog un glossaire de la ville connectée ou de la ville du futur, qui commence ce glossaire par la lettre C avec Clever City, la ville astucieuse, qui est votre alternative à la ville du futur, à la ville smart, etc. etc. C'est ça, bah, votre proposition?
Oui, c'était juste un rebond par rapport à quelque chose qui a été dit en tout début, hein, qui est que le terme smart et le terme d'intelligence ne sont pas forcément les bons termes. C'est vrai que de remettre un peu, et on en revient à des questions d'imaginaire ici, un peu sémantiques, l'idée que la ville n'est pas forcément quelque chose de parfait et qu'elle ne doit pas être quelque chose de parfait et que donc elle est bricolée. Les bricolages urbains, c'est une forme de néologisme que j'emprunte à Émile. Que la ville peut être bricolée et doit être bricolée, c'est ce que j'avais essayé de montrer. Juste de dire, sortons de la logique smart, intelligente et quitte à en sortir, proposons une micro-alternative.
Folksotopie.
Ouais, alors ça date de mes débuts. C'était en fait, on l'a évoqué, la capacité de la foule entre guillemets à produire un espace et à produire une idée de l'espace à travers par exemple les commentaires qu'on va avoir sur tel lieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va se renseigner sur un parc, un restaurant ou n'importe quel lieu urbain, on a une foule de données quantitatives qu'on peut récupérer à travers des capteurs ou à travers des taxis, et une foule de données qualitatives qui vont être les commentaires que les gens ont laissés. Et tout cette espèce de bavardage, je l'avais appelé ça la folksotopie.
Autre mot très original, la masturbanité.
Ouais, qui vient pas de moi.
Réenchantement de l'espace urbain grâce à la valorisation de l'érotisme inhérent à la ville.
Voilà, c'était une manière de poser la question de la place de la sexualité dans la ville, et quand je dis sexualité, c'est la place aussi des genres, par exemple, dans la ville, et en gros de questionner ça à travers une idée, un concept. En fait, les espèces de néologismes qu'on trouve ou de formules, c'est une manière de mettre des mots sur des idées encore embryonnaires et d'essayer de raconter derrière une histoire, de poser une question. Là, la question, par exemple, de quelle place on attribue dans des villes occidentales à la sexualité.
Et il y a aussi la question des symboles phalliques dans les villes, des villes qui sont trop masculines, des noms de rues qui sont trop masculins également, etc., etc.
Voilà, ça c'est pour ça que la question de genre, elle se raccroche forcément à la question de la sexualité. Après, moi, il y avait aussi une partie. Alors c'était un blog personnel à l'époque, c'est devenu mon cabinet. Il y avait aussi une partie militante dans cette question qui me semblait important de traiter.
Urotopie.
Moi, ça c'était très personnel, donc je l'assume qu'à moitié, mais c'est. Quoique, c'était partie d'une réflexion sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux et comment ils servent à marquer l'espace. Par exemple, à l'époque où j'ai écrit ça, il y avait Foursquare qui était très à la mode. Donc Foursquare, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui permet de se checker quand on rentre dans un bar, quand on rentre à Pompidou, quand on rentre peut-être dans son domicile si on lui a donné un nom. Et ça permet, entre guillemets, de dire « je suis passé par là ». Et disons qu'il y avait un rapport, une analogie assez facile et rigolote avec la manière qu'on peut avoir de marquer l'espace urbain avec son urine, quand on est un chien ou un humain d'ailleurs.
Ouais, donc l'urotopie, c'est l'utopie de l'urine dans la ville, la pisse urbaine comme marquage de l'espace urbain.
Exactement.
Le glossaire, l'idée c'est justement le message, c'est qu'on doit peut-être totalement réinventer la ville, réinventer les problématiques, les questionnements, les endroits où on doit réfléchir, etc.
Alors, on en revient à la question que t'as soulevée au début, qui est l'existant et le souhaitable. Moi, c'est pas forcément ce que je souhaite. En tout cas, c'est des questionnements qui m'ont interpellé et que j'ai essayé de formuler à travers le blog, mais qui soulèvent pour moi des questions fondamentales sur l'espace urbain existant. Donc, entre guillemets, c'est ce qu'on va appeler des what if, des et si. Et si on laissait une place dans l'espace urbain pour avoir des relations sexuelles? Et si on se réinterrogeait sur la place qu'on entretient à l'égard de telle ou telle ou telle question?
J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne, quand tu ressens ce besoin et que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon bruit périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter l'écolo relou à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme, et rien que pour ça faut qu'on l'estime. Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime d'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence? J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure et jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le vrai, l'authentique, peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflètent nos vies. Et on comprend que slam et hip-hop ne pouvaient naître qu'ici. Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière. Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, Je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent comme à l'angle de Broadway et de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. RFI.
Bonjour Valérie Peugeot.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente Transition numérique et Société de la connaissance au Conseil national du numérique. On dit CNUM et non pas CNN, hein, c'est ce qu'on a dit pendant un certain temps. Vous travaillez aussi pour Orange Labs où vous êtes en charge des questions de prospective au sein du laboratoire de sciences humaines et sociales. C'est correct ?
Toujours correct.
Je vous donne la parole en dernier, ce qui manque totalement de galanterie, car avec vous, nous pouvons faire un pas de côté. Vous êtes spécialiste de prospective, donc votre regard est celui de quelqu'un qui se projette dans le futur, permet aussi de contextualiser les interrogations sur la ville dans des interrogations beaucoup plus larges qui sont celles du numérique, parce que beaucoup des questions et des interrogations liées à la ville sont des questions qu'on retrouve dans tout l'univers du numérique et même les dichotomies entre l'argent et le bien public, etc. Ce sont des choses qu'on retrouve tout le temps dans les histoires liées à l'informatique.
Oui, alors difficile de passer après ces trois orateurs merveilleux qui ont dit plein de belles choses. Mais je vais essayer de rebondir un petit peu sur différents propos, notamment ce que disait Francis puis Philippe sur la tension entre des imaginaires. Parce qu'effectivement, on voit bien deux polarités entre, d'une part, ce que moi j'appelle la ville panoptique, hein, avec les exemples qui ont été cités.
Donc panoptique, il faut expliquer, c'est vraiment la ville de la surveillance, en
c'est
gros,
la ville c'est de ça la, enfin, c'est l'idée qu'on va avoir une sorte de grand dashboard qui va ramener toutes les données de la ville et qui va permettre à une autorité, on ne sait pas très bien si elle est publique-privée ou si c'est un PPP, un partenariat public-privé, qui va permettre de gérer la ville toujours avec les meilleures intentions du monde. Mais en attendant, on construit une sorte de centralité de contrôle. Et puis une autre, alors utopie sans y mettre une dimension forcément positive, mais en tout cas un autre imaginaire, pour reprendre ce que disait Philippe, qui est au contraire la ville ascendante, la ville distribuée, la ville portée par ses citoyens, avec des tas d'expériences intéressantes. Émile, je t'ai trouvé un tout petit peu pessimiste sur la manière dont les habitants peuvent s'impliquer dans la ville, mais on a quand même maintenant pas mal d'expériences assez intéressantes, certaines qui sont initiées par la municipalité elle-même, hein. Je pense à des choses comme IMEC Rotterdam, où il y a eu tout un plan d'urbanisme co-conçu et co-financé par la ville et ses habitants, ou des choses qui se passent carrément en dehors de la municipalité. Je pense à ce qui se passe là dans à Joséphat, qui est une banlieue de Bruxelles, où les habitants se mobilisent contre un plan d'urbanisme qui leur vient d'en haut et qui veulent réinvestir et repenser par eux-mêmes. Donc on voit bien des dynamiques comme ça. Donc on voit ce schéma centralisé versus distribué. Et ce qui est amusant, et alors là je ne vais pas faire le pas prospectif en avant mais en arrière, parce que de temps à autre le petit détour par l'histoire est tout aussi intéressant, c'est qu'en fait quand on parle de Smart City, on agrège trois choses. Une manière de penser la ville, donc on réfère à l'urbanisme. Une manière de placer l'énergie dans la ville. Donc on en a peu parlé pour l'instant, mais la place de la question énergétique est absolument essentielle.
Des flux d'une manière générale aussi.
Et les TIC. Voilà, on convoque énergie, TIC. Et si on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on retrouve cette tension entre une vision centralisée et une vision distribuée. L'énergie, quand l'électricité est arrivée à la fin du 19e, on sortait de la période machine à vapeur qui était absolument terrible en termes de concentration urbaine puisqu'on entassait les gens autour de ces énormes machines à vapeur. Et il y a eu un certain nombre de penseurs, je pense à Zola par exemple dans son livre sur le travail en 1901, qui a dit « Ah, enfin, grâce à l'électricité, on va pouvoir revenir à une forme de petite usine décentralisée, d'artisanat, la ville va réexploser, etc. » Évidemment, il s'est passé le contraire. On a été vers du grand réseau avec de jusqu'aux usines nucléaires, etc. Donc là, lui, son imaginaire à lui a perdu dans ce cas-là, on a été vers un imaginaire centralisé. Si on regarde l'urbanisme, on a eu, alors là je parle sous le contrôle de l'urbanisme parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais toute la période haussmannienne en France, puis Moses aux États-Unis, et puis General Motors qui a poussé pour qu'on développe tout un réseau d'infrastructures, autoroutes, etc. Donc on le voit dans l'urbanisme, il y avait déjà cet affrontement-là. Et sur les TIC, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que après-guerre, on avait, et on retrouve IBM, c'est pas un hasard, hein, les grandes machines, les grands ordinateurs énormes qui séquençaient le travail. Et là, c'est au contraire un imaginaire sorti de la contre-culture, de la cyberculture, de la contre-culture, qui a gagné avec l'ordinateur, le PC, avec Internet, qui était sur une logique distribuée. En tout cas, on voit bien qu'on oscille en permanence entre cette logique distribuée, centralisée. Et donc, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui la Smart City revisite ces trois histoires-là et la réinterroge avec finalement une mise en tension de ces trois histoires dans un espace unique. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de la donnée que vous avez été plusieurs à évoquer, notamment Philippe. Moi, ce qui me marque, c'est que on va vers des infrastructures qui sont de plus en plus des infrastructures de l'invisible. Depuis notre passe Navigo jusqu'au, voilà, on va vers des technologies de l'invisible. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on a tout un discours autour de l'open data, hein, de l'ouverture des données produites par la municipalité. Donc, d'une main, on enterre nos infrastructures productrices de données, et de l'autre main, on réclame la mise à disposition et le partage de ces données. Et donc, effectivement, je rejoins l'interrogation de Philippe, c'est-à-dire, qui produit la donnée? Qui a la maîtrise sur ces infrastructures productrices des données? Qui met en circulation les données? Qui les partage? À quelles conditions? Etc., etc. Aujourd'hui, on est dans une espèce de grande zone d'ombre et qui, à mon avis, va devenir le point central si on veut aller de plus en plus vers cette ville connectée sans créer une boîte noire absolument incommensurable dans laquelle, pour le coup, le citoyen n'aura plus son mot à dire. Et on pourra toujours le faire participer à des projets urbanistiques participatifs passionnants, et vraiment je le pousse, je pense qu'il y en a, mais si on ne garde pas cette maîtrise collective de la donnée, de sa production à son usage, je pense que là, on construit quelque chose d'assez dangereux. Voilà, je pense que dans la ville version un peu plus distribuée, participative et ascendante, en ce moment, il y a différents courants qui tirent. On a cité tous ces courants des civic hackers. On pourrait citer tout ce qui se passe autour de la consommation collaborative qui essaye aussi de penser une ville plus durable. Il y a le courant ville en transition qui est très intéressant. Le courant des communs, on vient de le citer. Voilà, en ce moment, ça pousse dans tous les sens. Mais il y a une volonté très forte de ce que David Harvey, le géographe, appelle le droit à la ville au sens du droit à faire nous-mêmes la ville, quoi.
Juste, je veux bien que vous interagissiez ou que vous interveniez dans l'idée de l'existant. Quelles sont les interactions déjà existantes, les solutions, les choses qui vous semblent importantes dans l'existant, dans les choses qui existent aujourd'hui, dans les villes aussi? Je sais, Francis, que tu as visité beaucoup de villes et beaucoup de villes qui sont en train d'expérimenter des choses. Si vous aviez une, deux choses importantes à dire.
J'ai trois projets qui me viennent en tête, qui existent aujourd'hui, qui font un peu la transition parce qu'ils interrogent aussi le futur et qui correspondent aux trois visions de la ville intelligente dont je vous parlais tout à l'heure. Face à la ville qui optimise tout autour de vous, il y a un projet développé par un designer que je trouve assez intéressant, qui s'est attaqué au sujet du stationnement optimisé dans la ville. Cisco dit d'ailleurs, c'est un des secteurs sur lequel il faut absolument aller en premier quand on développe des projets Smart City, parce que le stationnement, c'est là où on peut récupérer plein d'argent. Et donc, c'est un projet qui a été pensé pour la ville de Santa Monica, qui a mis en place comme ça un système de stationnement intelligent. En gros, c'est simplement que quand vous stationnez, vous payez. Des fois, vous payez un peu trop parce que vous partez avant la fin du stationnement que vous avez prévu. Et l'intelligence du système, c'est que ça remet à zéro le compteur. Comme ça, celui qui arrive derrière, il profite pas du fait que vous avez déjà un peu payé davantage. Donc ce designer a pensé à un système justement pour redonner la main aux gens par rapport à cette intelligence. La ville est optimisée autour de vous, mais on peut vous redonner la main. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on donnait aux gens la possibilité, au moment où ils quittent leur stationnement, de choisir soit, en gros, ce qu'ils ont payé en trop, ils le donnent à la ville, c'est reversé dans les comptes publics, ou soit ils le laissent pour le suivant. Donc c'est une espèce de solidarité, de voisinage avec celui qui va venir se garer après. Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à redonner le choix aux gens et on n'est plus dans l'optimisation tout autour de vous. Un autre projet que je trouve super intéressant, qui correspond un peu à la deuxième vision de la ville intelligente que je décrivais tout à l'heure, c'est une ville qui vous facilite la vie. L'archétype de ça, c'est Google Maps. Avec Google Maps, vous pouvez naviguer, aller d'un point à un autre, et il vous trouve le meilleur chemin. Vous cherchez une boulangerie, vous trouvez la boulangerie la plus proche, etc. Et là, il y a un designer qui s'appelle Mark Shepard qui a inventé une petite application qui s'appelle Serendipitor. C'est un peu l'anti-Google Maps. vous téléchargez cette application, vous dites où vous voulez aller dans la ville, et il vous propose un trajet qui est pas le plus court, qui est un peu aléatoire, et puis en plus, tout le long du trajet, il vous indique pas la meilleure boulangerie, le meilleur resto, etc. Il vous donne des petits défis, des petites tâches, des petits exercices à faire. Il vous dit de chercher le premier chien que vous croisez, puis de suivre le propriétaire de ce chien jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Ce qui recrée un peu de surprise,
de sérendipité.
De sérendipité, d'où le nom de l'application Serendipitor. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose et on trouve autre chose. Donc ça, je trouve que c'est une manière un peu décalée de réfléchir à la ville super optimisée, super facilitée.
On retrouve d'ailleurs l'idée du ludique et du jeu.
Ça remet aussi un peu du ludique dedans. Ouais.
Francis.
Moi, je voudrais commencer par un truc très abstrait qu'on n'a pas dit. C'est que la ville est un mot inacceptable dans notre réflexion. La ville, ça vient du passé. Toutes les villes sont des structures qui remontent à des dizaines, sauf les nouvelles, qui sont décidées bureaucratiquement, qui remontent à des structures du passé. Ça ne correspond jamais à la ville, mais c'est l'interlocuteur auquel les grandes compagnies peuvent vendre quelque chose. Donc, on ne peut pas réfléchir sérieusement longtemps sur la ville. Donc ça, c'est un truc abstrait, mais je pense que c'est important de dire qu'on a un problème avec ça, que je ne lis pas beaucoup.
Et sur les conurbations aussi, parce qu'on pense en termes de division municipale, mais il y a parfois des villes.
Les macropolises. En Chine, les petites, comme celles qui se trouvent autour de Canton, de Guangzhou, c'est de l'ordre de 45, entre 20 et 50 millions d'habitants. Il y en a qui feront 150 millions d'habitants, 120 millions d'habitants. Et je voudrais ajouter à cette notion un point sur tout ce qu'on a dit sur les données, la privacité, etc. C'est que pour moi, c'est pas oui ou non. C'est toujours un peu de oui, toujours un peu de non, et c'est toujours une lutte. Je voudrais terminer
sur... C'est une lutte qui est nécessaire et qu'il faut mener aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont déployées en dépit de l'intérêt peut-être général risque de l'être.
Ce qui caractérise la vie sociale, c'est le conflit. Et donc, on vit à un moment où on essaye d'éliminer le conflit, on va pas très loin, et il ressort là où on voudrait pas qu'il ressorte. Et donc, il faut accepter le conflit, les conflits d'intérêts, les conflits d'envie, les conflits d'utopie, etc. Et il faut accepter, voir où on se positionne dans toutes ces choses-là.
Valérie, Philippe, est-ce que, dans cette idée de choses qui vous intéressent, alors on est passé de l'existant au souhaitable, d'ailleurs, c'était de toute façon une distinction qui était un petit peu superficielle.
Ce qui me semble important, c'est qu'on ramène... Alors de la poésie, on l'a dit, mais aussi de la créativité. Et la créativité, il faut aller la piocher. C'est ce que fait Francis, il faut aller la piocher ailleurs. Il faut aller la piocher aussi dans l'histoire, poser des questionnements aussi. Ce que je disais sur la mort, la sexualité, c'est plus mon souhait personnel. Et posture d'humilité, ça va avec. Se rappeler que le numérique peut changer des choses, il peut minimiser, maximiser, mais ne pas penser qu'on va tout réinventer. Et de la même manière, ne pas penser qu'on va tout faire exploser ou tout faire imploser.
Valérie.
Alors moi, j'ai deux souhaits connexes qui sont un clin d'œil à nos hôtes, à la puissance invitante. Je pense que les bibliothèques ont joué un rôle absolument historique, fondamental dans notre montée en connaissance à tous, dans notre culture à tous, et je pense qu'elles ont aussi joué un rôle pour certaines d'entre elles, médiathèques, etc., sur tout ce qui a été les premiers pas dans Internet, hein, souvenons-nous dans le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'elles ont aussi un autre rôle à jouer dans ce que j'appellerais la data literacy, c'est-à-dire un bouquet de compétences à acquérir sur la gestion de nos données, la protection de nos données, la production de données, le partage de données, etc. Donc j'invite les bibliothèques à s'emparer de ce nouveau rôle. Je pense qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle de façon générique des tiers-lieux. Ces tiers-lieux peuvent être des hackerspace, des espaces publics numériques, des Fab Labs, toutes sortes de lieux, mais que ce soit des lieux d'accueil de ce qu'on appelle l'innovation sociale, c'est-à-dire une innovation portée par les citoyens, par les individus, par les habitants, qui soient des lieux où ils puissent inventer des réponses à des problématiques communes auxquelles les acteurs publics et privés ne pensent pas spontanément. Donc voilà, si on pouvait avoir demain, soit dans la bibliothèque, soit ailleurs.
Pour conclure, je voulais vous lire un passage d'une chronique de Xavier Delaporte, qui tout récemment, on a appris qu'il allait rejoindre Rue 89 et que donc il allait arrêter les chroniques matinales sur France Culture et peut-être aussi l'émission Place de la Toile, qui est le pendant plus sérieux et peut-être un peu plus philosophique de l'émission qu'on fait nous à RFI. Et donc il a écrit sur les villes intelligentes, il écrit un très beau texte, je vous cite juste la fin. « Surtout, il ne faudrait pas qu'être intelligente empêche la ville d'être idiote.
idiote parce qu'elle se trompe, idiote parce qu'elle ne fait pas toujours tout bien, idiote parce qu'elle ne prévoit pas tout et laisse de la place à ses habitants pour ne pas faire seulement ce qui est prévu. Et paradoxalement, pour ce dernier vœu, je fais assez confiance à l'informatique. Parce que si, à proprement parler, les programmes informatiques ne se trompent pas, ils buguent inévitablement. Or, de bons petits bugs dans une ville hyper connectée pourraient avoir des effets qui dépassent mes envies d'idiotie, c'est-à-dire des moments de folie où tout hoquette, désoriente, sursaute, de petits chaos éphémères qui feront peut-être le charme de la ville. Merci à toutes les équipes de la BPI, merci à toutes les équipes au son derrière, toutes les équipes de l'atelier des médias, merci au public. Cette table ronde a été enregistrée le 26 mai dernier au centre Georges Pompidou dans le cadre du cycle Culture numérique de la BPI. Vous trouverez sa vidéo et sa version longue audio sur le site de l'Atelier des médias ainsi que bien entendu des liens vers les différents projets de nos invités. Le prochain rendez-vous du cycle Culture numérique est fixé le 22 septembre prochain. Il a pour thème Anatomie d'une rencontre en ligne, comprendre notamment les amours à l'ère numérique.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 343 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon Decreuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, libiablog.org, arablog.org et mondoblog.org. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre Mondoblog, le concours vient d'être lancé et c'est ouvert jusqu'au 10 août. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation, une entreprise et que vous souhaitez appuyer ou sponsoriser l'Atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail atelier@rfi.fr. Ce projet, l'Atelier et ses petits, Mondoblog, Arablog, Libiablog et peut-être bientôt l'Atelier Radio ont besoin de vous. Merci de votre soutien. Salut à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais. Des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.